Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, une affaire qui s'est passée lorsque Jacob a dû fuir. Il fuyait parce que ça s'était mal passé. Je ne sais pas si vous savez que des fois dans la famille, il peut y avoir des problèmes. Est-ce que vous l'aviez vérifié ? Hier, j'ai étudié, après avoir fini ma prédication, j'étais en avance et j'ai vraiment été interpellé par Dieu. La façon dont cet homme a terminé sa vie, cet homme qu'il a commencé d'une manière minable, ouais. Comment il a terminé en prophétisant cet homme. Et j'ai cherché tous les textes où on voit cet homme évoluer, ça sera l'objet d'une autre prédication. Mais c'est pour vous dire que même si les choses parfois se passent mal, Dieu connaît les cœurs et il sait ce qu'il peut faire avec. C'est impressionnant l'histoire de Jacob. Moi, je croyais la connaître. Je la connaissais. Mais je crois que hier, Dieu m'a vraiment parlé. Et nous étudierons peut-être un mardi soir ou un autre dimanche ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Comment Dieu, par les épreuves, va le former. Parce que nous sommes ses enfants, et parce que nous sommes ses enfants, Dieu nous bénit. Et il ne peut pas ne pas nous bénir. Mais parce que nous sommes ses enfants, il ne peut pas ne pas nous corriger. Parce que Dieu veut que nous fassions des progrès. Et d'un côté, il nous bénit, et de l'autre, il nous éprouve. C'est comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Dieu vous bénira et Dieu vous éprouvera. Et on va voir, moi je vous assure, hier après-midi, j'ai été rassasié par la grâce de Dieu en étudiant tous les textes où Jacob parle. Bien sûr, il y a des choix douloureux, mais nous verrons ces choses. Alors nous allons le voir là dans Genèse au chapitre 28. Il fuit, son frère veut le tuer, il a menti à son père, sa mère a magouillé. Et pourtant, c'est la famille du Seigneur. C'est la famille de la promesse. Et il arrive à un moment donné, vraiment ça va mal. Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Je vous signale que la nuit d'avant, il devait dormir dans des conditions un petit peu plus confortables. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu et dit, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je lui donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Si tu me donnes à manger, des habits, le fils riche en est arrivé à faire cette prière à Dieu. Et je vais vous demander de prier pour cette étude, car je vois la façon dont Dieu m'a parlé hier. S'il vous parle de la même manière au travers de ce que l'on va partager, c'est obligé. Que Dieu vous bénisse. Comment cet homme a terminé? Et je le répète, parce qu'il a terminé, parce qu'il n'a vécu que beaucoup d'épreuves. Vous savez, Dieu sait comment on doit être éprouvé. Il le sait. Il sait ce que l'on doit traverser, quand est-ce qu'on doit le traverser. Et ce n'est pas parce qu'on traverse des épreuves que nous ne sommes pas ses enfants, bien au contraire. C'est souvent parce que nous sommes ses enfants. Car le fils qui est exempt du châtiment est un bâtard, dit la Bible. Mais les chrétiens sont à l'école de Dieu. Et nous devons comprendre une chose qui ce matin va nous servir de message, c'est que, comme on l'a chanté, le ciel est ouvert. On l'a chanté tout à l'heure? Est-ce qu'on a chanté le ciel est ouvert? Pour tous le ciel est ouvert. On l'a chanté? Est-ce que c'est vrai ça? De la croix, la grâce coule. On l'a chanté. Le ciel est ouvert. Nous sommes dans les temps difficiles. Nous sommes dans les temps où la grâce s'achève, où le maître de la maison va se lever et fermer la porte. Mais mes frères et sœurs, la porte est ouverte, les cieux sont ouverts. Et si nous ne comprenons pas toutes ces choses, à savoir la façon dont Dieu peut nous bénir et la façon dont Dieu peut nous éprouver, parfois ce paradoxe, mais comment cela se fait-il que Dieu m'éprouve? Mais c'est important pour que l'on puisse devenir ces hommes utiles entre les mains de Dieu. Oui, le ciel est ouvert. Alors, je voudrais ce matin vous parler de ce sujet et voir quelques textes dans la Bible où le ciel, justement, est ouvert. Jacob s'est mal comporté. Il va essayer d'avoir la bénédiction par ses forces. Vous savez, tant qu'on veut avoir la bénédiction par ses forces, on ne peut pas être vraiment utile à Dieu. Mais à partir du moment où on arrive à dépendre entièrement de Dieu, on devient utile entre les mains du Seigneur. Alors, je crois que plusieurs ce matin ont besoin de cette parole, d'une parole de Dieu. Une chose est sûre, le ciel est ouvert. Peut-être que vous avez été en conflit avec quelqu'un de votre famille. Est-ce que ça peut arriver? Dites-moi ce que ça arrive. Est-ce qu'un conflit avec son père, un conflit avec son frère, un conflit avec sa mère? C'est ce qui est en train d'arriver à Jacob. Je ne sais pas tout ce qu'il a pensé, mais enfin sa prière nous révèle que lui, il avait besoin juste à manger, des vêtements. Il voulait l'essentiel alors que Dieu avait certainement d'autres choses à lui donner. On le verra plus tard. Le ciel est ouvert. Vous avez vu la vision que Dieu va donner à cet homme? C'est pas merveilleux? Franchement, vous ne trouvez pas cette affaire extraordinaire? Comment Dieu, dans sa bonté, à la place de le réprimander, va lui donner cette vision de cette échelle avec les anges qui montent et qui descendent avec ce Dieu tout-puissant au-dessus pour lui montrer, voilà, c'est vrai. Est-ce qu'il aurait pu lui faire un sermon sévère sur la façon dont il avait agi? Est-ce qu'il n'aurait pas pu lui dire, écoute Jacob, t'es vraiment minable? Non mais, vous avez compris ce que je veux dire? Est-ce qu'il aurait pu lui dire, Jacob, t'es vraiment un pauvre type, Jacob. T'as vu où t'en es? Et je crois qu'à des moments, on n'a pas besoin d'un sermon. On n'a pas besoin d'une leçon de morale. À des moments, même si on s'est trompé, on doit savoir que nous avons un Dieu qui, tant qu'il n'est pas revenu chercher son Église, nous prouvera que la porte des cieux est ouverte. Que les cieux sont ouverts. Il ne le savait pas, il n'avait pas compris. Mais est-ce que vous le savez que Dieu est au milieu de nous? Peut-être quelqu'un dit, mais je ne le savais pas. Si Dieu vous parle ce soir, si Dieu vous parle ce matin, si Dieu par un psaume, si Dieu par une expérience, vous dites, mais je réalise que Dieu ne m'avait pas abandonné. Je me suis attrapé avec mon père, je me suis attrapé avec mon frère, j'ai voulu être béni par mes forces, j'ai joué des coudes pour être béni. Tout ça, ça m'amène à m'isoler de plus en plus. Le ciel est ouvert, mes frères et sœurs. Et attendez-vous à Dieu. C'est Dieu qui bénit. Ne jouez pas des coudes pour être béni. On verra cette affaire. C'est une affaire qui me tient vraiment à cœur. Je suis poussé à étudier la vie de Jacob. Je pense que c'est certainement pour moi aussi, mais aussi pour l'Église. De toute façon, ça ne pourra que faire du bien à l'Église, tout cet enseignement sur la façon dont Dieu va former Jacob, les épreuves par lesquelles il va passer. Alors, on va voir quelques textes. Notez-les, méditez-les, où le ciel s'est ouvert. Dans Luc au chapitre 3, Luc chapitre 3, on voit le ciel s'ouvrir. Pourquoi ? On va voir quelques textes, on vient d'en voir un, on va essayer d'en voir sept. Vite fait, je vous encourage peut-être même à les noter et à les méditer pour vos cultes cette semaine. Sept, comme le nombre des jours de la semaine. Un texte chaque jour. Qu'est-ce qui se passe ? Luc 3, 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Amen. Vous entendez ? Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train d'obéir. Ailleurs, il dira à Jean-Baptiste, « Laisse faire ce qui est convenable. » Jean-Baptiste s'oppose, c'est clair, on comprend que pourtant ce grand homme de Dieu voit le Messie arriver, et il ne se sent pas capable, digne de le baptiser. Et Jésus dit, « Non, laisse faire maintenant ce qui est convenable. » Jésus était en train d'obéir. Il était en train de faire ce qui est convenable. Mes frères et sœurs, si vous faites ce qui est convenable, si vous faites ce que le Seigneur vous demande, Dieu va vous obéir, Dieu va vous ouvrir le ciel. L'obéissance de Jésus est une clé pour nous, pour chacun de nous. Où en sommes-nous de cette obéissance ? Mes frères et sœurs, Jésus a attendu l'âge de 30 ans. Pourquoi ? Parce que c'était l'heure où il fallait qu'il entre dans le ministère. Rappelez-vous ce verset que l'on cite en longueur d'année, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Avez-vous besoin d'une direction ? Avez-vous besoin peut-être de quelque chose de particulier ? Vivez dans l'obéissance. Ne vous préoccupez pas de la direction de Dieu. Préoccupez-vous d'obéir. Peut-être même vous avez un désir. Dieu accomplit les désirs, je le sais. Mais occupez-vous d'obéir. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous demandez, vous l'obtiendrez. L'obéissance, elle est très bien expliquée dans le Deutéronome. Vous connaissez Deutéronome, vous pouvez joindre à ce texte Deutéronome 28. Si demain vous faites votre culte personnel, prenez ce texte et lisez le Deutéronome chapitre 28 en entier. Il y a toute une partie qui consiste à expliquer ce qui se passe lorsqu'un homme obéit à Dieu, et il y a toute une partie qui explique ce qui se passe lorsqu'un homme n'obéit pas à Dieu. Il y a une bénédiction et il y a une malédiction. Et dans ce texte sur la bénédiction de Deutéronome 28, verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu », verset 2, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique. Amen. Mes frères et sœurs, cette première partie nous prouve que lorsqu'un homme fait ce qui est convenable et qu'il le fait joyeusement, pas par intérêt, pas sous pression, je le fais, ça devient charnel, je fais les choses, je le fais, je prie, alors j'obéis. Non, Je le fais parce que c'est une grâce que de pouvoir faire ce qui est convenable. C'est une grâce que de pouvoir venir dans la maison de Dieu, de pouvoir le louer. C'est une grâce de pouvoir lui obéir. Oui ou non? Ce n'est pas une corvée, c'est une bénédiction de pouvoir obéir à Dieu. Lorsque tu obéiras, l'Éternel t'ouvrira le ciel. La suite nous prouve que si on n'obéit pas, eh bien le ciel va se fermer et on va passer à côté. Ça vaut la peine de méditer les deux textes. Nous serons frappés d'aveuglement, nous ne verrons pas grand-chose aux choses spirituelles. Oui, l'obéissance. Dieu peut nous bénir même si on n'obéit pas. C'est une parenthèse que je vais faire. Mais si on n'obéit pas, la bénédiction ne dure pas. Est-ce que vous avez compris ? Parfois, des gens sont guéris, délivrés, bénis, mais la désobéissance empêche la bénédiction de rester. Est-ce que vous me suivez ? Nous l'avons vérifié. Bien des fois, des gens ont fait des expériences extraordinaires, mais la désobéissance a court-circuité le prolongement de cette bénédiction. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas parce qu'on est béni que tout est acquis. Il faut se maintenir dans une attitude d'obéissance joyeuse et nous croirions que le ciel sera ouvert. Quand Jésus a pris le baptême, le ciel s'est ouvert. Mes frères et sœurs, obéissons en vivant la vérité de la parole, à sa conscience aussi. Vous savez la conscience, la voix de la conscience. On n'en parle pas souvent, mais quelques-uns ont fait naufrage. Ils ont perdu la conscience. Vous savez qu'on peut perdre la conscience, ça s'émousse, et les choses deviennent de plus en plus insensibles. Et quand on perd la conscience, on peut faire naufrage par rapport à la foi, dit 1 Timothée chapitre 1, verset 19, si je ne me trompe. Le troisième texte où nous voyons le ciel s'ouvrir, c'est dans Actes chapitre 10. Dans Actes chapitre 10, au verset 9, nous voyons le ciel qui s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe ? Pierre a faim. C'est bien ? Actes chapitre 10, verset 9. Dieu veut lui apprendre quelque chose. Acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. N'oubliez pas, alors ne vous imaginez pas que les toits étaient comme chez nous. Hein. Ce sont des toits plats, ce sont des terrasses. Il monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim. Il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Et vous lirez la suite. La suite, Dieu veut lui faire comprendre la différence entre le légalisme et la vie de l'esprit. Est-ce que vous savez qu'on peut tomber dans le légalisme même quand on est des chrétiens ? Et Dieu veut enseigner à Pierre la différence entre le légalisme et la vie de l'esprit. C'est quelque chose d'important. Tout ça pour dire quoi ? Que Dieu a des leçons à nous apprendre, que lorsque le ciel s'ouvre, il nous révèle certaines choses qui sont peut-être de travers dans notre cœur. Est-ce que vous croyez qu'on peut être de travers sur certains points ? Est-ce que vous croyez qu'on peut s'être trompé ? Bien sûr, on le voit des fois. Il y a des choses, moi, que j'ai dites il y a 15 ans, je ne les redirai plus aujourd'hui, je ne pourrai plus les redire, tellement c'était contradictoire à ce que je pense aujourd'hui. Mais voyez, on a évolué et les choses changent. Heureusement qu'on change, hein. Mais il y a des choses que je ne dirai plus jamais. Et pourtant, je les pensais, lorsque je les ai dites il y a 15 ans, elles étaient explicables, si vous voulez. Mais on change, heureusement. Donc Pierre est un homme de Dieu, il a déjà beaucoup avancé, il a déjà beaucoup changé. Mais voilà, Dieu veut lui enseigner la différence entre le légalisme et la vie de l'esprit. Voilà. Mais une chose est sûre, il y a des leçons à apprendre et Dieu veut nous ouvrir le ciel pour que nous apprenions certaines leçons. En tous les cas, Dieu veut nous ouvrir le ciel. Lorsque nous prions, c'est pendant qu'il prie que le ciel s'ouvre. Mes frères et sœurs, combien j'aimerais vous persuader que lorsque l'on prie, Dieu peut ouvrir son ciel. Est-ce que vous le croyez, ça ? Que lorsque l'on prie, le Seigneur peut nous ouvrir son ciel et nous révéler des choses que nous avons comprises de travers, des choses que nous avons mal comprises parce qu'on nous les avait enseignées, parce qu'on nous les avait mal enseignées, ainsi de suite. Mais je suis convaincu que quand quelqu'un prie, le ciel s'ouvre et Dieu l'éclaire sur des préjugés, sur des fausses perceptions, sur ça peut être du légalisme ou l'inverse, du laxisme. Oh Seigneur, tu m'as éclairé, tu m'as montré que ça, bien sûr, parce qu'on est, comme ça. Moi, voyez par exemple sur la discipline, quand la Bible dit « si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul ». C'est un des points sur lesquels j'ai beaucoup changé. C'est écrit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Mais regardez, quand David a commis l'adultère, combien de temps Dieu a-t-il mis pour le discipliner? A-t-il attendu? Un an. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est que ce n'est pas parce que Dieu dit, si ton frère a péché, va et reprends-le, qu'il faut y aller dans la minute qui suit. Est-ce que vous comprenez les choses? Comment on peut changer? Et moi, ces choses-là m'ont permis de comprendre. Bien sûr qu'il faut le faire, mais il ne faut pas peut-être le faire d'une manière précipitée. Il vaut mieux peut-être bien prier avant, demander à Dieu la sagesse. Quand est-ce qu'il faut le faire? Voyez? Mais c'était d'équerre. Quelqu'un, moi, j'allais voir quelqu'un, oui, vous avez dit ça, vous avez fait ça. Mais le Seigneur m'a montré que des fois, il faut attendre. Voyez, d'un côté, si ton frère a péché, il va reprendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire de suite. Voilà, c'est un des exemples parmi tant d'autres où je pense que lorsque l'on prie, le Seigneur nous montre ces choses et nous éclaire afin que nous devenions des chrétiens équilibrés. La prière fervente. Pierre, il avait besoin de prier, il avait faim. Mais voyez, il était monté sur la terrasse, il y avait du monde. Il a eu besoin de se retirer. Il aurait pu passer le temps avec les frères. Il l'a certainement fait. Il aurait pu penser qu'à son repas, il y a pensé. Est-ce que c'était bien qu'il mange? Voyez, ce n'est pas parce qu'il avait faim que ça ne l'a pas empêché de se tenir devant Dieu. Et ce n'est pas parce qu'il a mangé que Dieu ne s'est pas réveillé. Je crois que ce qui est important, c'est d'être vrai. Mes frères et sœurs, ce qui est important dans la vie, c'est d'être vrai. Si vous avez envie de rire, eh bien riez. Si vous avez envie de pleurer, eh bien pleurez. Je crois que l'Église sera belle quand il n'y a pas de comédie. Parce que quelqu'un peut avoir envie de rire. Oui ou non? Ce matin, on a vu le petit, comment il s'appelle? Romain? 15 jours. Vous l'avez eu, le plus petit de l'Église? Oui, il est petit. Eh bien, c'est normal, il est petit. Ça, on se réjouit. On voit un frère qui arrive, qui souffre, eh bien, ça nous fait de la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons vrais. Soyons vrais. Je crois que Pierre, il avait beaucoup appris. Il était vrai. Il a eu besoin de se retirer sur le toit de cette maison. Ça correspondait à un moment que Dieu voulait l'avoir seul avec lui. Voyez? Et soyons vrais, mes frères et sœurs. Ne faisons pas des prières ferventes pour faire des prières ferventes. Soyons vrais. Vous avez besoin de vous retirer, retirez-vous pour prier. Vous avez besoin de passer du temps dans la communion fraternelle. Eh bien, passez du temps dans la communion fraternelle. Ne jouons pas la comédie. Nous en reparlerons certainement dans la vie de Jacob, où nous allons voir comment cet homme, mais comment c'est de la folie, comment je n'avais jamais compris, comment cet homme a terminé. Je réalisais hier combien Dieu nous éclaire lorsque l'on médite. Regardez Isaac. Isaac, il va se faire piéger pour bénir Jacob. Pourtant, le Dieu d'Isaac. Et quand Jacob va arriver avec des poils collés sur le bras, il va se faire piéger. Par contre, Jacob, quand les fils de Joseph arrivent, vous savez, Éphraïm est menacé. Lui aussi, il a vu trouble. Mais il ne va pas se faire piéger. Il va croiser ses mains pour bénir l'un en fonction de la promesse de Dieu. Ce qui prouve que la vision spirituelle de Jacob, à la fin de sa vie, était beaucoup plus pointue que celle d'Isaac. Vous auriez préféré peut-être vous être à la place d'Isaac, mais à la fin de notre vie, je ne sais pas, quand on aura étudié ce qu'on va partager ensemble, vous allez tous dire, je veux ressembler à Jacob sur la fin. Soyons vrais, soyons vrais. Cette prière qui ouvre le ciel. Dans le jardin de Gethsémané, vous avez vu comment Jésus l'a prié. Il n'a pas ouvert le ciel à ce moment-là? Dites-moi, est-ce que le ciel ne s'est pas ouvert lorsque Jésus a supplié? Il a été fortifié, les anges l'ont fortifié parce qu'il était en train de mourir. Mes frères et sœurs, cette prière qui ouvre le ciel, cette prière qui fortifie, cette prière qui renouvelle, cette prière qui produit des convictions et des changements. L'apôtre Pierre a été changé. Sa vision légaliste de la loi devra être changée par une vision beaucoup plus spirituelle, voyez. Et je crois que nous aussi, nous pouvons dire, Seigneur, ouvre mes yeux, que je ne devienne pas de travers, mais que je sois toujours sensible aux choses que tu veux me révéler. Le quatrième texte, où nous voyons le ciel s'ouvert, c'est dans le deuxième livre des rois. C'est une famine. Il y a une famine, ça va mal. En Samarie, ça va très mal. Le roi Ben-Hadad occupe Samarie. Et voilà, ça va très, très, très mal. Je vous résume, vous le lirez. Deux rois, chapitre 6, du verset 24 au verset 11 du chapitre 7. Vous lirez cette affaire, vous l'avez certainement lu. Il y a une famine tellement sévère, à un moment donné, le roi passe, et voit une femme lui demande, sauve-moi, et le roi dit, mais je ne peux rien faire. Et qu'as-tu? Et cette femme, elle va lui dire qu'elle va manger son fils qui est mort. Alors le roi, il est exaspéré, il va vouloir trouver un coupable, il va dire, voilà, c'est Élisée. Et il va aller dans la maison d'Élisée. Élisée, il est avec les anciens, assis, donc ils étaient en train de prier, certainement. Le roi, il entre en colère contre le prophète. Et voilà qu'il arrive avec l'officier du roi. Ça, on va le lire, cette partie qui nous intéresse. Hein, on va lire la partie qui nous intéresse quand même. Deux rois, chapitre 6, verset 32. Or, Élisée était assis dans la maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Ça, c'est un encouragement, vous voyez, pour la formation des anciens, être ensemble pour recevoir la pensée de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ?» Vous voyez, il était éclairé, mais vous voyez la relation. Hein. « Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. » Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un sicle, 2 mesures d'orge pour un sicle, à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ?» Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Et vous verrez la suite, comment Dieu a débloqué les circonstances, conduit les circonstances pour que la bénédiction soit sur cette affaire. Mes frères et sœurs, je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez les promesses de Dieu? Si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas. Cet officier s'est entendu dire, les autres mangeront. Toi, tu le verras, mais tu n'en profiteras pas. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps de crise. Ne nous plaignons pas. Mais nous sommes quand même dans une crise. Elle existe. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de vous bénir? Crise ou pas crise? Est-ce que vous croyez que les fenêtres du ciel sont ouvertes? Est-ce que vous croyez que quand Jésus dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Je ne sais pas, peut-être vous avez besoin d'un emploi. Est-ce que Dieu est capable de vous donner un travail? Est-ce que Dieu est capable de vous dire « voilà, mais si tu crois, tu le verras ». Cet officier s'est autorisé, bien sûr s'est autorisé, peut-être qu'il avait la tête montée par le roi, mais il a voulu défendre le roi. Il ne faut jamais défendre les gens. Il faut défendre la parole de Dieu. Il ne faut pas défendre les gens parce qu'ils ont des hautes positions. Il faut défendre la parole de Dieu. Et cet homme s'est entendu, voilà, mais tu le verras, mais tu n'y participeras pas. Mes frères, que nous ne soyons pas dans l'église de ceux qui vont voir les autres bénis et que nous passions à côté de la bénédiction. Ça serait dommage que certains soient bénis et que d'autres regardent. Vous êtes d'accord? Alors, soyons soucieux. Tu l'as dit, tu le feras. Tu t'appelles Jéhovah Jireh? Eh bien, tu pourvoiras. Amen. Vous savez, dans l'histoire de Jacob, j'y reviens parce que moi, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Malgré tout ce que Dieu lui a dit, et combien de fois Dieu lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, il continuait à magouiller pour essayer de s'en sortir par lui-même. Comme quoi, il faut apprendre beaucoup de choses pour marcher par l'esprit. Mais mes frères et sœurs, quelle que soit la crise, quelle que soit la famine, quels que soient les problèmes, Dieu a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et si vous croyez les promesses, vous les verrez s'accomplir. Et si vous êtes tout le temps en train de les discuter, oui, mais d'accord, mais si, et ceci et cela, mais eh bien, vous ne verrez pas. Vous verrez les autres bénis, vous les verrez bénis. mais vous ne participerez pas à la bénédiction. J'espère que ce n'est pas ce que vous voulez. J'espère que vous voulez tous dire, voilà, on va le voir nous-mêmes. Dans ma famille, on va voir la bénédiction. Les fenêtres du ciel sont ouvertes. Alléluia. Ne soyons pas de ceux qui nous autorisons à commenter. Oui, mais vous comprenez. Oui, ne disons rien. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, tu as promis que tu n'abandonnerais jamais le juste. Reste à savoir si nous nous comportons comme quelqu'un de juste. Ça, c'est une autre affaire. D'ailleurs, c'est la prochaine affaire. C'est le cinquième point. Le ciel s'ouvre justement sur celui qui donne. Vous connaissez le prophète Malachi. Vous connaissez cette affaire au chapitre 3. Il y a un gros problème. Ils sont en train de tomber dans l'avarice. Et c'est vrai que quand les choses vont mal, on peut se faire piéger. Alors, ne pensez pas que je dis cela par rapport à l'Assemblée Générale, loin s'en faut. J'aurais jamais voulu dire ces choses-là. Croyez-moi, je le dis parce que Dieu me l'a mis à cœur, point. Dans le prophète Malachi, il y a un problème. Justement, c'est entre le juste et le méchant que cette affaire se situe. Ils sont là, ils sont en train de tromper Dieu, ils ont peur. Donc, ils s'autorisent à se tromper. Malachi chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu ? C'est une drôle de question. Hein ? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore, et ne vous détruira plus les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Vous avez vu ce que Dieu pense lorsqu'on dit, ouais, à quoi ça sert de servir Dieu, à quoi ça sert de prier, à quoi ça sert... Vous avez vu ce que Dieu en pense. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse, à cause de l'Éternel des armées ? Vous avez vu ? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors, ceux qui craignent Dieu se parlèrent l'un à l'autre. Vous savez que Dieu nous entend quand on parle ? L'Éternel fut attentif, il écouta. C'est une drôle d'image, hein ? Quelle belle image. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, pour ceux qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et regardez, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mes frères et sœurs, ce texte nous indique que le ciel plus peut se fermer si nous sommes avares et si nous sommes cupides. Alors, je vous avoue que quand Dieu m'a inspiré pour cette prédication, j'ai failli ne pas donner ce point, parce que je ne voulais pas que vous pensiez que je faisais allusion à ce qui a été dit à l'Assemblée Générale, mais je veux faire la volonté de Dieu. Et peut-être que quelqu'un ce matin a besoin de s'entendre dire que le ciel s'est fermé au-dessus de lui à cause de sa cupidité et de son avarice. Mes frères et sœurs, ne soyez pas liés par l'argent. Béni soit Dieu pour le salaire, béni soit Dieu pour ce qu'il nous donne, mais ne soyons pas liés par l'argent, par la cupidité. Il y a des chrétiens qui ont le ciel fermé au-dessus d'eux à cause de la cupidité. Vous devez vous en débarrasser comme on se débarrasse de tout ce qui peut nous empêcher de marcher et de suivre le Seigneur. C'est quelque chose de sérieux. Dieu dit clairement que le ciel s'ouvrira sur les justes. Et les justes, ce sont ceux qui font ce que Dieu demande. Sixièmement, le ciel s'ouvre sur qui ? Acte 7, 55. Acte 7, c'est très, très, très encourageant pour ceux qui souffrent. car il y a beaucoup de bénédictions, mais il y a aussi de la souffrance. Et je pense que nos frères persécutés dans le monde entier doivent être bénis, croyez-moi, par ce passage. Croyez-moi, des millions de gens qui ont été persécutés ont dû être bénis par ce passage d'Actes, chapitre 7, versets 54 à 60. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Vous vous rendez compte? Jésus, il est assis sur son trône. Et là, il le voit qui s'est levé. Pour lui, ben oui. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors, ils l'ont lapidé, vous connaissez la suite. Hein? Mes frères et sœurs, le ciel s'ouvre sur ceux qui s'ouvrent pour Jésus. Et vous devez, quand vous priez pour les persécutés, savoir que Dieu peut ouvrir son ciel sur ceux qui acceptent la souffrance, parce que la souffrance est un sujet délicat, la souffrance. C'est un sujet très difficile à comprendre. Vous êtes d'accord avec moi? C'est incalculable le nombre de choses qui peuvent être vécues lorsque quelqu'un souffre. Mais là, nous voyons Étienne. Le ciel s'ouvre dans la souffrance. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes appelés à souffrir dans votre travail, à souffrir dans votre foyer, parce que votre mari, votre conjoint est inconverti. Est-ce que ça peut arriver? Parce qu'on se moque de vous au boulot, parce qu'il y a de la persécution sous une forme ou sous une autre. Acceptez cette souffrance. Acceptez-la. Acceptez-la dans la paix et Dieu peut ouvrir son ciel. Étienne a accepté. Il n'a pas tout remis en question. Et même, vous avez vu comment il a fait? Lorsqu'ils l'ont poussé des cris, se bouchent les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». C'est pas fini. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Après ces paroles, il est parti. Il est mort en pardonnant. Il n'était pas dans la haine, dans l'amertume parce qu'il souffrait. Dans la souffrance, il les a bénis. Je ne sais pas si vous êtes en train de souffrir, ça peut arriver. Ça peut arriver, on le verra, moi je vous dis, on va le voir avec cette histoire de Jacob. Comment cet homme, s'il a bien terminé, je peux vous dire, c'est parce qu'il a beaucoup souffert en vérité. C'est pour ça. Mais mes frères et sœurs, dans la souffrance, bénissez. Vous vous rendez compte? Il était en train d'être lapidé, il s'est mis à genoux et il les a bénis. Il a imité quelqu'un qui l'a fait quelques semaines plus tôt. Père, pardonne-leur. Quel témoignage! Le ciel qui s'ouvre sur les hommes qui souffrent, sur les hommes qui acceptent la souffrance. Oui, mes frères et sœurs, il vous arrivera, il nous arrivera de souffrir parce qu'on est chrétien. Acceptons cette souffrance, acceptons-la pas bêtement. Et voilà, j'accepte. Non, Seigneur, je comprends, il y a un combat entre les ténèbres et entre la lumière, entre le bien, entre le mal. Il y a un combat. Seigneur, je veux l'accepter. Je veux faire ce que tu me demandes. Oui, le ciel s'ouvre sur les chrétiens qui souffrent et qui acceptent la souffrance dans la grâce et la paix de Dieu. Que son nom soit béni. Et pour terminer, dans l'Apocalypse, au chapitre 19, ça c'est l'apothéose, c'est notre gloire, c'est le top niveau, hein, c'est les noces de l'agneau, ça va être, enfin pour nous, hein, pour ceux qui sont sur la terre, c'est pas pareil. Apocalypse 19, on va lire que le verset qui nous intéresse. Ça va être, c'est la fin de la grande tribulation sur la terre. Nous, on est aux noces de l'agneau, mais le ciel s'ouvre, on va régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans sur la terre. Enfin, c'est un programme, un grand programme qui nous attend. On n'y pense pas, mais c'est peut-être beaucoup plus proche que ce que nous pensons. Vous y pensez parfois que bientôt, on va être avec le Seigneur? Oui. Apocalypse 19, verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert. » Alléluia. Et voici parut un cheval blanc. Bon, c'est la bataille d'Armageddon. Nous, tout ça, on est épargnés. Mais on va revenir sur la terre avec Jésus. pour son retour, ça n'a rien à voir avec l'avènement, ne pas confondre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus, on reviendra régner 1000 ans sur la terre, sous quelle forme? C'est un peu quand même délicat. Une chose est certaine, le ciel est ouvert pour les chrétiens. Et nous voulons que le ciel soit ouvert. C'est pour cela que nous devons tout faire, pour que le ciel soit toujours ouvert au-dessus de notre vie. Et je pourrais en 3 minutes résumer les 7 textes que je viens de citer. Mes frères et sœurs, croyez aux promesses de Dieu. Croyez, vous êtes loupé avec votre famille, vous avez voulu être béni par vos propres forces, vous avez voulu avoir un boulot par vos propres forces, j'en sais rien, vous avez voulu magouiller comme Jacob. Laissez Dieu prendre les choses en main. C'est Dieu qui ouvre le ciel. Les anges, ils montent, ils descendent, vous ne le savez peut-être pas, mais mes frères et sœurs, Dieu vous a gardé 50 000 fois. Dieu vous a protégé 50 000 fois. Et ce n'est pas une image, je le pense. Le nombre de milliers, je le pense. Alors, par contre, préoccupons-nous comment nous gérons la souffrance, comment nous gérons l'argent, comment nous gérons les promesses de Dieu. Est-ce que nous les sommes influencés par ce que les autres disent, comme du temps de Malachie, ou comme l'officier du roi de Samarie, qui disait, oui, tu parles de Dieu ceci, Dieu cela. Écoutez, Dieu, il a tout pouvoir. C'est pas le ministre des Finances qui tient la France, c'est Dieu qui tient la France. Et les nations sont dans la main de Dieu comme des gouttes d'eau dans un seau. Alors moi je crois que Dieu règne, que le ciel est ouvert et que les gens qui obéissent verront le ciel ouvert, que les gens qui ne sont pas cupides verront le ciel ouvert, que les gens qui acceptent la souffrance verront le ciel ouvert, que les gens qui croient dans les promesses de Dieu verront le ciel ouvert. Ouvert, que les gens qui font ce qui est convenable verront le ciel ouvert. Mes frères et sœurs, c'est une loi dans le royaume de Dieu. Si vous croyez, vous le verrez, que son nom soit béni. Fermons les yeux quelques instants.